Bonjour, le Camel Carnet.
Bonjour.
Je vous remercie de nous accueillir ici à la librairie Les Espelines à l'occasion de l'installation de votre exposition qui ouvrira demain et qui vous permettra de mettre en lumière vos photos sur les Vercors et qui sont aussi dans votre livre récemment édité, Vercors.
C'est ça, Vercors rencontre au fil des saisons, ouais.
Vous êtes photographe naturaliste, mais la première question, est-ce que vous êtes d'abord photographe ou d'abord naturaliste?
Alors, d'abord naturaliste, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4-5 ans, et puis après photographe quand j'ai commencé quand j'avais 12, ouais, 12 ans à peu près.
Et aujourd'hui, les deux aspects vont ensemble, il n'y en a pas un qui est prépondérant sur l'autre.
Si, je préfère quand même toujours sortir avec mes jumelles qu'avec mon appareil photo, c'est moins lourd, mais surtout ce que j'aime le plus, c'est observer la nature, la photo ça vient après.
Les fruits de ces observations, il est en partie devant nous. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on voit là dans la librairie, déjà exposé dans des beaux cadres assez grands?
Donc là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 tirages donc de tailles différentes. Il y a une étagne, la toute première photo, celle qui fait du coup la couverture du livre aussi, donc la femelle d'un bouquetin. Après, il y a deux biches suspendues dans la neige. Il y a un joli troupeau de bouquetins dans le brouillard. Une femelle lagopède toute seule au milieu de la neige, au milieu de rien. Et puis après, une petite chouette chevêchette qui est en train de bâiller.
Alors, pour la chouette, on ne sait pas. Pour les autres, on se rend bien compte que c'est des photos d'hiver. Et l'hiver, occupe une section de votre livre.
Ouais, bah du coup le livre s'est fait du coup sur les 4 saisons, donc on commence du coup avec l'hiver, donc c'est souvent des photos qui sont très très blanches. Et moi c'est aussi une saison que j'aime beaucoup pour photographier, pour me balader ou pour skier parce que j'aime bien la rudesse de l'hiver, j'aime bien les ambiances que l'hiver dégage. Et donc c'est vrai qu'en photo j'essaye en tout cas de le retranscrire et on arrive un petit peu à le percevoir avec la première photo là, l'étagne du coup qui est toute givrée, elle est complètement ensevelie de glace. Et donc j'aime bien un petit peu essayer de retranscrire cette atmosphère-là dans mes images.
On voit l'animal enseveli dans la glace, on peut s'imaginer les photographes ensevelis dans la glace de l'autre côté.
Exactement, ouais. Moi je suis dans le même état qu'elle, hein. Je suis complètement givré, mon appareil photo aussi il est givré. Des fois il faut que je souffle dessus pour essayer de le dégivrer pour que je puisse accéder au bouton, mais je suis dans le même état que ouais.
Et c'est votre démarche un peu de vous mettre dans une situation comparable à celle des animaux que vous espérez rencontrer?
Moi, je viens juste essayer de témoigner en fait des endroits, de l'environnement dans lesquels ces animaux vivent. Et puis c'est vrai que j'aime bien essayer de le montrer aussi les conditions les plus extrêmes dans lesquelles ces animaux vivent. Parce que nous, on y va une journée, 2 journées maximum. Et puis après, on rentre chez soi, on dort dans un lit au chaud. Alors qu'eux, ils sont là-haut toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc des fois les conditions sont pas toujours faciles.
Est-ce que pour parler encore de conditions pas faciles, est-ce qu'on peut essayer de décrire cette photo qui est dans les brouillards?
J'étais parti du coup pour essayer de voir les bouquetins ce jour-là. Il y avait plein d'indices qui me prouvaient, enfin qui me démontraient que les bouquetins étaient pas très loin. Et en fait avec ce brouillard on voyait pas à 15-20 mètres. Et donc je cherchais un petit peu une aiguille dans une botte de foin parce que ils étaient impossibles à trouver avec ce brouillard. Et puis d'un coup en fait à un moment donné il y a un bruit assez sourd, assez puissant qui était en fait les cornes des bouquetins qui s'entrechoquaient, qui se battaient. Et donc c'est comme ça que j'ai pu les localiser, savoir où est-ce qu'ils étaient. Et en fait, je suis descendu de 200 mètres de dénivelé plus bas. J'étais passé à côté sans les voir en fait dans la montée. Et ils étaient là au milieu de ces énormes blocs de roches dans ce chaos rocheux. Et ils étaient tous regroupés. Donc c'était pas forcément facile d'essayer d'en mettre un forcément en évidence ou plusieurs. Et puis au moment donné, ils se sont tous mis un petit peu là alignés presque. Et donc j'ai fait cette image. Et puis c'était pas forcément facile sur le coup de se dire si l'image était bonne, et puis en fait quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu l'image, je l'ai trouvée assez qui bah, elle caractérisait bien le moment vécu en tout cas.
Là, vous venez de dire une chose qui nous frappe, nous qui ne sommes pas photographes, je ne savais pas si l'image était bonne. Qu'est-ce que c'est une bonne image?
Une bonne image, déjà il faut que ce soit une image qui me plaise moi par rapport au moment vécu. Ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir face à moi du coup des animaux qui sont paisibles. J'aime pas un animal qui prend la fuite ou un animal qui est sur le qui-vive, sur l'alerte. Pour moi, c'est pas une image qui va m'intéresser. Et puis après, une image réussie, il n'y a pas vraiment de règles en photo. Faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage, qui soit marquant, qu'il y ait une émotion qui soit véhiculée. Et puis là, dans toutes ces images, c'est des images que j'ai sélectionnées, que j'ai imprimées, donc forcément, c'est des images qui me plaisent. Mais c'est aussi après un style, quelque chose qui va un petit peu nous définir. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas dans ces tirages. Toutes les images, elles sont forcément retravaillées un minimum, mais moi j'essaie vraiment après sur le terrain d'être le plus précis possible, d'aller dans le moindre détail, vraiment finir mon image avec mon appareil photo, et donc elles sont retravaillées, mais vraiment un minimum. C'est parfois un petit peu de recadrage, un tout petit peu de contraste, mais sinon mes yeux ont vu ça. C'est ce que j'essaye de aussi vraiment de respecter, c'est être le plus fidèle possible à la prise de vue, à ce que moi j'ai vu dans mes jumelles.
La chouette, elle ressort de l'obscurité.
C'est ça. Alors on a l'impression que ça peut être fait en pleine nuit, mais en fait c'est quasiment en pleine journée, en plein après-midi. Et là, elle était du coup dans un faisceau de lumière, et puis tout le reste était vraiment dans l'ombre. Et donc après, en sous-exposant avec mon appareil photo, donc j'ai vraiment ce rendu-là dès la prise de vue. Là, il n'y a pas de retouche ou d'assombrissement après derrière avec l'image.
Vous ne nous donnez pas des repères très précis, sauf pour quelques photos, pour comprendre où on est, même quand donc on est un peu les Vercors, on ne sait pas très exactement où nous sommes.
Ouais, bah après j'essaye de dans mes images le plus possible, pas toujours, des fois il y a des images qui vont être un petit peu plus proches de l'animal, mais j'essaie de toujours incruster en fait un sujet, une espèce dans un environnement. En fait, sans un environnement adéquat à une espèce, l'espèce elle peut pas y vivre, elle peut pas rester là. Donc j'essaie de lier les deux, de montrer en fait la liaison qu'il y a entre une espèce et son environnement.
Et dans votre livre, ainsi que dans l'expo qu'on a sous nos yeux, il n'y a pas de lieu qui est indiqué, il n'y a pas de date des prises de la photo. Est-ce que c'est une volonté de les rendre, on va dire, un peu intemporel, un peu abstrait?
Ouais, exactement. Alors je voulais à la fois pas mettre les lieux pour la tranquillité des espèces, pour pas que derrière après il y ait aussi plein de personnes qui y aillent.
Donc vous reconnaissez que nous, l'espèce humaine, on est un peu destructrice par rapport à l'égard de ces sujets-là.
Ouais, l'espèce humaine, elle est un petit peu envahissante parfois. Ouais, mais moi le premier, hein, parce que moi aussi, quand je vais dehors, des fois les animaux, ils apprécient pas forcément ma présence, bien sûr. Mais j'ai pas envie que ce soit encore, qu'il y ait derrière ça encore un petit peu plus de dérangement par ma faute surtout. Mais voilà, après toutes les images, elles sont faites sur le Vercors. De toute façon, tout ce qui est bouquetin, lagopède, on sait que ça va être sur les crêtes, sur des sommets, donc. Ça en dit déjà long.
Vous nous donnez comme repère les saisons principalement.
Voilà exactement les saisons, après les ambiances, le blanc de la neige, l'obscurité de la nuit, tout ça, ouais.
Ces travaux un peu poétiques d'abstraction que vous avez faits, est-ce qu'ils s'articulent par ailleurs au constat des changements qui sont ceux du paysage et du danger qui pèsent sur ces espèces?
Bah alors les saisons, ça se fait pas sur des dates précises, forcément c'est cyclique, donc à la fin, après on retourne à la fin de l'automne, on est censé revenir sur l'hiver, et donc j'ai essayé de mettre un petit peu, de montrer un petit peu la difficulté du coup que certaines espèces ont sur la fin de l'automne, au début de l'hiver, donc ça va être ce lièvre variable, le lagopède alpin, mais il y a aussi du coup l'hermine, qui eux vont devenir du coup blancs, par rapport à des hormones qui vont faire que du coup leur plumage, leur pelage vont devenir blancs. Mais derrière, on n'a pas forcément la neige qui arrive à temps. Et donc j'ai essayé un petit peu là sur ces 4 dernières pages là de montrer la difficulté que ces espèces ont à s'adapter face à ce changement-là. Donc ça va être un lagopède blanc dans des roches un peu sombres. Là, juste avant, ça va être même beaucoup de contraste, donc un lièvre blanc sur un fond complètement noir. Donc j'ai essayé un petit peu de montrer sur la fin du livre donc ces enjeux que ces espèces ont dans le Vercors.
Constat qui ne pourrait pas être plus actuel aujourd'hui, 18 décembre.
Oui.
Belle journée ensoleillée sans neige.
Exactement, ouais. Ouais, avec 10 degrés.
Et donc, pour passer à un autre sujet, je voulais parler avec vous du prix que vous avez reçu pour votre travail. Qu'est-ce que ça représente un prix comme celui que vous avez eu et que je vous laisse dire?
C'est le prix de l'étoile montante, décerné du coup par le Muséum d'Histoire Naturelle à Londres. Le concours, c'est du coup le Wildlife Photographer of the Year, photographe naturaliste de l'année.
Et qu'est-ce qu'un prix comme cela, peut-être nous on ne se rend pas compte, veut dire dans les parcours d'un photographe?
Ouais, c'est le plus gros concours qu'on a du coup dans le monde entier. Enfin, pour la photographie de nature. Et donc, c'est vrai que recevoir un prix à ce concours-là, parce que du coup, il y a plusieurs catégories. Moi, j'ai gagné un prix d'une des catégories. Bah, c'est une véritable consécration. C'est un peu un rêve, ouais, pour tous les photographes.
Quels sont les critères qui sont pris en compte?
Bah, alors, faut qu'il y ait des images qui se détachent des autres. Moi, je pourrais pas vraiment y répondre parce que je suis pas jury, je suis juste participant. Mais en tout cas, on essaye de montrer, du coup, en l'occurrence, moi, pour mon prix, c'est, du coup, un portfolio de 6 images. Et donc, on est récompensé sur l'originalité, sur les techniques de prise de vue, mais aussi, du coup, sur le fait que nos photos doivent être le moins retouchées possible. On doit vraiment être au plus proche de la réalité. Donc, on est obligé d'envoyer, du coup, les formats bruts de nos images. Et du coup, c'est le jury qui décide si on a été du coup fidèle ou non sur la retouche de nos images.
L'authenticité est un enjeu dans la photographie naturaliste, ce qui n'est pas le cas, par exemple, par d'autres typologies de photographie.
Oui, exactement. Alors après, il y a vraiment des critères un peu précis. Par exemple, sur le recadrage, on ne doit pas dépasser 20 ou 30%, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des données techniques précises. On peut retravailler un petit peu le contraste, un petit peu l'exposition, mais pas plus. On doit vraiment être le plus fidèle possible.
Et donc, c'est un prix Rising Star que vous avez reçu. Donc, c'est un prix qui consacre des étoiles montantes. On peut s'imaginer que c'est un parcours récent, mais en fait, non, votre travail de photographie, il a commencé il y a quelques années.
Oui, c'est un prix qui est réservé pour les 18-26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, j'ai commencé la photo, du coup, vers mes 12 ans, ouais.
Et dans les livres aussi, il y a des photos qui remontent à quelques années.
La photo la plus ancienne, elle a 10 ans, ouais, dans le livre. Donc ça fait 10 ans d'images. Après, la plupart des images ont été faites sur les 5 dernières années à peu près. Mais voilà, l'image la plus ancienne a 10 ans, ouais.
Comment vous avez choisi les photos à mettre dans votre livre? J'imagine que vous en avez beaucoup plus.
Ouais, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup plus, ouais. Alors après, du coup, avec Rachel, donc la graphiste, on a vraiment essayé de raconter une histoire avec toutes ces photos. Donc on est parti du coup de l'hiver au printemps jusqu'à l'automne. Et donc on a essayé du coup de raconter une histoire avec ces images et avec surtout la colorimétrie de ces photos. Donc on passe du blanc au vert en passant un petit peu par le sombre, après l'orange, pour terminer sur le noir. Donc il y a des images malheureusement qui étaient très belles, enfin des images que j'aime beaucoup, mais qui n'avaient pas leur place, tout simplement par souci du coup de colorimétrie ou d'espèce.
Et donc on a beaucoup beaucoup parlé d'images, il y a aussi des textes dans ces livres. Est-ce que c'était facile de trouver les mots justes pour accompagner ces images?
Non, du tout, non. Je me définis pas vraiment comme photographe, donc déjà faire les photos c'est pas forcément facile, mais alors les textes c'était encore autre chose, mais je voulais qu'il y ait du texte, je voulais pas que ce soit vraiment un livre qui présente uniquement des images. Donc je me suis forcé un peu à écrire sur certaines images, oui.
Et sur la manière dont vous avez attendu, c'est beaucoup question d'attente dans ces textes et des patience, notamment par exemple, vous décrivez un passage d'un loup après lequel vous avez attendu 2 jours qu'il repasse à nouveau.
Bah c'est beaucoup, beaucoup d'affût, en tout cas pour faire des images en France, enfin, ici sur le Vercors notamment, on a beaucoup d'espèces en fait qui avec la pression de l'homme, la pression de la chasse, du coup sont très très farouches. Ils ont une énorme crainte de l'homme et donc on est obligé, pour essayer de contrer un petit peu leur vigilance, de les prendre par surprise. Et donc les prendre par surprise, c'est faire de l'affût, c'est attendre qu'un animal passe, espérer qu'il passe au bon endroit, au bon moment, avec la bonne lumière, et puis pour faire une image.
Quel est l'autre projet avez-vous?
Bah, toujours continuer à faire des photos sur le Vercors. J'ai pas d'autres projets de livres ou autres. Déjà celui-là, il me prend pas mal de temps avec la distribution, la vente, etc. Donc déjà faire en sorte que le livre se vende bien. Et puis après, essayer de retrouver un petit peu de temps pour moi pour faire des photos.
Et c'est toujours le Vercors qui vous inspire.
Et c'est toujours le Vercors qui m'inspire, qui m'anime et que j'aime, ouais. J'ai pas fait ce livre, c'est pas une page qui se ferme, enfin un livre qui se ferme ou autre, c'est juste le début, même j'espère, d'un travail encore plus long sur la région, ouais.
Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Ben, si vous voulez du coup voir l'exposition ou me rencontrer aux côtés du coup de Daniel Pénac, qui est l'auteur de la préface du livre, on peut se retrouver du coup le mardi 2 janvier à partir de 18 h à la librairie des Espelines à Vassy-en-Vercors.
Merci.
Merci à vous.